19h21 sur France Inter et voici donc le téléphone sonne avec vous Pierre Veil, bonsoir.
Bonsoir Sébastien et à demain soir, à demain. 19h pour le journal Sébastien. C'était au début de ce mois les résultats du travail long et complexe d'une commission d'enquête parlementaire sur la sécurité de nos centrales nucléaires. La commission a enchaîné les auditions et les visites de sites pendant 5 mois. Ces travaux font suite à la catastrophe de Fukushima, mais aussi à plusieurs intrusions sur des sites d'EDF, de militants, de Greenpeace pour dénoncer le risque nucléaire. Tout récemment encore, le 3 juillet, un drone et un avion miniature de l'organisation ont survolé une centrale proche de Lyon et se sont écrasés sur un bâtiment. Le rapport parlementaire a clairement identifié des failles de sécurité. La commission propose 33 mesures pour rendre ces sites plus sûrs face aux risques d'accidents et de terrorisme. Exemple, renforcer le rôle de l'autorité de la sûreté nucléaire, contrôler la sous-traitance dans le secteur, envisager d'autres modes de stockage des déchets, mettre plus de gendarmes dans les centrales, publier un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler. Vous voulez en savoir plus sur ce rapport, sur la sécurité de nos réacteurs nucléaires ? Vous nous appelez dès maintenant le standard 01 45 24 7000. Et pour vous répondre, nos invités, Dominique Minière, qui est directeur de la production nucléaire et thermique d'EDF, bonsoir.
Bonsoir.
Perrine Goulet, bonsoir.
Bonsoir.
Députée La République En Marche de la Nièvre, vous avez fait partie de cette commission d'enquête parlementaire et vous contestez bon nombre de ses conclusions. On aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Laura Hameau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de campagne au sein de l'association Sortir du nucléaire. Et puis Yves Marignac, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Wise Paris, une agence d'information et d'expertise sur le nucléaire et l'énergie.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Alors, je peux vous le dire déjà, alors de nombreux courriels d'auditeurs, beaucoup de questions. Je vais tout de suite vous les soumettre, c'est clair. Voici Adrien qui nous dit « Si des terroristes veulent s'en prendre à une centrale, êtes-vous certain de déjouer une telle attaque du genre un drone, un avion qui se crache sur une centrale ?» Et voici Michel, il nous a écrit « Que valent les murs d'une centrale nucléaire en France ? Y a-t-il un risque de sabotage interne, une cyberattaque qui déréglerait complètement une centrale nucléaire. Jérôme, les centrales nucléaires sont-elles conçues pour résister à une attaque d'avion ? Voilà, on est au cœur du sujet. Dominique Minière, EDF.
Bonsoir. Eh bien, écoutez, sur ce sujet-là, je pense que le rapport de la commission, en tout cas, est assez éclairant, puisqu'il a dit qu'en fait, que les dispositions que l'on a mises en place concernant la sécurité de nos centrales, éviter le risque terrorisme et éviter le risque de chute d'avion sont globalement satisfaisantes, sont globalement dans le bon sens.
Globalement satisfaisantes. Ben,
globalement, par exemple, sur le terrorisme, elle dit clairement que l'ensemble des mesures semble rendre les installations nucléaires françaises robustes face au risque du terrorisme. Je ne fais que reprendre les expressions du rapport de la commission d'enquête. Donc globalement, nos installations et la manière dont on organise la prévention vis-à-vis du risque des terroristes sont plutôt reconnus par le rapport.
Que pensez-vous de ce que vient de dire Dominique Minière, Laura Hameau ?
Sur la sécurité de nos installations, les associations, notamment les dernières actions de Greenpeace, montrent finalement qu'il y a des failles de sécurité. L'existence de la sous-traitance, également étrangère, etc., fait qu'il n'y a pas forcément de contrôle global de toutes les personnes qui entrent sur le site. Les installations nucléaires sont vulnérables aux risques terroristes, aux crashs d'avions, et pas que les piscines de combustible. Et d'ailleurs, la commission parle de globalement satisfaisante, mais elle pointe tout un tas de problèmes liés à la sécurité sur les piscines, les bâtiments réacteurs, etc., etc.
Il y a une question d'auditeur, là, je vous la soumets. Que valent les murs d'une centrale nucléaire en France ?
Oh ben, clairement, sur ce propos...
Dominique Minière, directeur de la production nucléaire à EDF.
Clairement, sur ce sujet-là, il y a des secrets défense, il y a le confidentiel défense qui s'explique, qui s'applique, et il faut faire très attention à la matière, mais clairement également, à l'occasion de la visite de la commission d'enquête sur le site de Gravelines, la commission d'enquête a pu voir de visu l'épaisseur des murs, mieux que sur un dessin de visu. Et d'ailleurs, elle a dit clairement que suite à cette visite, ces visites ont été de nature plutôt rassurante, parce qu'elle a vu effectivement, elle a pu constater ce qu'on dit depuis le départ, à savoir que les murs autour des bassins de nos piscines combustibles, l'épaisseur de ces murs est supérieure à l'épaisseur des murs des bâtiments réacteurs.
Barbara Pompili, qui est rapporteure de cette commission d'enquête parlementaire, députée de La République En Marche, s'est étonnée de ce secret défense que vous lui avez opposé lorsqu'elle a voulu vraiment se renseigner sur ce problème de ces murs de protection dans une centrale nucléaire. On lui a répondu, elle est quand même élue du peuple, secret défense.
Tout, je veux dire, en matière de secret défense, nous avons des règles à respecter. Tout le monde peut comprendre, et tous vos éditeurs peuvent comprendre, qu'en matière de protection contre le terrorisme, il y a quand même un certain nombre de dispositions à prendre en matière de secret défense, qui, si effectivement on les dépasse, nous expose à des sanctions pénales. Donc bien évidemment, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut effectivement montrer un certain nombre de choses à l'occasion des visites. C'est ce qui a été fait.
Yves Marignac, directeur de Wise Paris, agence d'information sur le nucléaire et l'énergie.
Oui, alors c'est évidemment un sujet sensible et on ne va pas rentrer ici dans une discussion sur l'épaisseur des murs à différentes hauteurs des bâtiments ou sur la nature des toits des bâtiments combustibles par exemple. Mais le rapport de la commission d'enquête, il est beaucoup plus nuancé que vient de le dire Dominique Minière à mon sens sur le sujet et il insiste aussi sur le fait que justement à cause du secret défense, il n'a pas pu avoir des réponses complètes sur tous les sujets et il fait deux préconisations importantes. La première, c'est de donner à des députés, à des parlementaires, l'habilitation au secret défense pour qu'effectivement les parlementaires puissent aller au bout de l'information sur le sujet. Et la deuxième, c'est de donner à l'autorité de sûreté nucléaire des compétences qu'elle n'a pas aujourd'hui pour se prononcer sur les dispositions de sûreté, typiquement les ouvrages de génie civil, les systèmes de secours, vis-à-vis de la malveillance. Donc elle reconnaît en creux qu'il y a là un déficit. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'on a conçu ces installations effectivement de manière robuste, mais à une époque où les actes de malveillance envisageables étaient complètement différents de ceux qu'on peut imaginer aujourd'hui, et ça crée inévitablement des défaillances.
Les courriels sur le site de l'émission, si on arrive à envoyer des drones sur une centrale, est-ce clairement la preuve qu'elles sont vulnérables? Qui est Perrine Goulet, député de La République en Marche de la Nièvre? Vous avez fait partie de cette commission d'enquête parlementaire.
Tout à fait. Je pense que justement, ça démontre bien avec le drone qui a été s'écraser contre un mur, il n'y a pas eu de dégâts. Donc je pense que justement, ça prouve bien que les murs résistent à ce type d'attaque. On a eu également les services de l'armée de l'air, et qui nous ont bien indiqué que la chute d'avion était très peu probable compte tenu des difficultés à piloter ce genre d'engin. On a été également rassurés, vous en parlez tout à l'heure, sur les cyberattaques par les services également de sécurité intérieure qui nous ont indiqué qu'effectivement EDF, hein, pas tous les exploitants mais EDF qui gère donc la plupart des centrales nucléaires, hein, les 58 réacteurs, EDF était parmi les plus en avance sur la sécurité informatique. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve effectivement que ce rapport est plutôt rassurant sur tout ce qui est sûreté, puisque vous pouvez voir notamment qu'il n'y a pas de recommandations titrées sur la sûreté. Et les recommandations sur la sécurité sont quand même ultra light. Donc je pense que les deux titres qui étaient de la commission d'enquête, qui étaient évaluer la sûreté, la sécurité, sont plutôt manière favorable.
On a commencé l'émission avec de nombreux courriels, on va aller au standard. Laura, un mot pour sortir du nucléaire, vous vouliez dire un mot
avant? Oui, je voulais revenir sur la question du secret, en fait. Ouais. C'est le reflet d'une attitude globale d'EDF. Il y a une culture de secret, tantôt on invoque le secret défense, tantôt ça va être le secret industriel, ça va pas dans le bon sens avec ce qui arrive par rapport au secret des affaires. Globalement, il y a toujours eu un manque d'accès, un déficit d'accès à l'information, que ce soit pour les associations, mais également pour les élus. Et à un moment donné, il est normal qu'il y ait un certain regard, à partir du moment où il y a un risque pour la santé, etc. Qui plus est, en plus, dans un contexte où EDF est déjà décrédibilisée, l'industrie nucléaire est décrédibilisée, avec toutes les fraudes qu'il y a eu, et les mensonges répétés, notamment l'attitude face à la commission. EDF a quand même communiqué suite à la sortie du rapport en disant qu'il n'avait pas été interrogé sur la sous-traitance, ce qui est complètement faux. Donc en fait, c'est une attitude globale, des mensonges répétés.
Alors, on va aller au standard tout de suite parce qu'on n'a pas encore pris d'appel. Je n'ai fait que lire les courriels, mais il y en a beaucoup. Jean-Guy est à Paris. Bonsoir, Jean-Guy.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour. Bon, j'habite près d'une centrale nucléaire. Pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures qui sont prises en termes de sûreté et de sécurité et leur délai de mise en œuvre ?
Dominique Minière, près de quelle centrale ?
De Jean-sur-Seine.
Dominique Minière, directeur de la production nucléaire et thermique d'EDF.
Tout d'abord, je voudrais signaler à Jean-Guy que nos centrales fonctionnent bien, notamment la centrale de Nogent. Elle a des bons résultats, elle est opérée, elle permet aux clients, aux auditeurs que vous écoutez ce soir, d'avoir une électricité 35% moins chère que dans les moyennes des pays européens.
C'est pas la question.
Hein. Oui, je suis d'accord, mais quand même, j'insiste sur mon message, de bénéficier d'une énergie non émettrice de CO2, c'est important, parce que 60% des gens pensent que le nucléaire émet
du CO2.
Quelles
sont les mesures de sécurité en place ? Les mesures de sécurité.
Les mesures de sûreté et de sécurité sont simples. Nos centrales sont opérées par des agents EDF suivant des règles définies et validées par l'autorité de sûreté. Et elles sont, j'allais dire, opérées par des agents EDF sur nos gens, par exemple.
Donnez-moi des exemples.
Sur nos gens, par exemple, il y a 800 agents EDF et 200 à 300 prestataires permanents. C'est l'ordre de grandeur. Et globalement, elles sont opérées suivant des règles. Et d'ailleurs, l'autorité de sûreté elle-même a reconnu l'an dernier que la situation en matière de sûreté du parc nucléaire était globalement satisfaisante.
Mais sur ce cas précis, supposons un incident, je crois qu'il y a une échelle de 1 à 7, un incident grave. Est-ce que vous avez tout prévu, même l'évacuation de la population ?
Tous les incidents et tous les événements sont prévus. Effectivement, il y a un certain nombre de dispositions suivant les niveaux d'événements qui sont prévus. On a des règles pour répondre et des procédures pour répondre en cas d'événement et d'incident qui sont effectivement régulièrement testées. Nos opérateurs, par exemple, dans nos centrales nucléaires, ont 2 à 3 semaines de formation en permanence, comme les pilotes d'avion, pour tester sur des simulateurs leur réponse en cas d'événement et d'incident.
Périne Goulet.
Moi, je vais juste répondre à ce monsieur sur la partie sécurité mise en place par l'État. Donc, il y a des gendarmes d'élite à l'intérieur des centrales pour défendre en cas d'intrusion. Il y a également, l'armée de l'air nous l'a confirmé, des avions de chasse prêts à intervenir en cas de besoin. Donc on a des radars qui permettent de surveiller les éventuelles intrusions de petits avions. Donc au-delà de ce que EDF met en place sur la sécurité, on a l'État qui est là en support autour de ces sites, donc centrales nucléaires et autres sites, pour effectivement pallier à toute attaque terroriste.
Alors justement, on a beaucoup de courriels. Je résume, si on se réfère au scénario épouvantable du 11 septembre, un avion de ligne qui est précipité sur une centrale nucléaire, on nous demande beaucoup de questions. Est-ce que nos centrales pourront résister à cette horreur, c'est-à-dire un avion qui se crache, comme on l'a vu le 11 septembre 2001.
Tout à fait, ils pourront résister. Effectivement, l'hypothèse d'un crash 11 septembre 2001 n'était pas prévue au moment de la conception de nos centrales. Donc bien évidemment, après le 11 septembre 2001, on a réétudié la sécurité de nos centrales par rapport à la résistance de ce crash. Et bien évidemment, on a pris des dispositions complémentaires que je ne détaillerai pas, parce qu'elles font là aussi, comme c'est en cas de risque de chute d'avion et de risque de terrorisme.
Secret défense ?
Elles font partie du secret défense. Mais oui, bien évidemment, pour défendre notre installation par rapport à un risque terrorisme, il y a du secret défense. Il n'y a pas, j'allais dire, d'industrie plus transparente que la nôtre, contrairement à ce qu'a dit Mme Hamot. Il n'y a personne qui publie tous ces événements et tous ces incidents. Il n'y a aucune industrie qui fait ça en France, si ce n'est le nucléaire.
Yves Marignac, un mot ? Parce qu'on a beaucoup d'appels.
On est au cœur du problème, mais je ne peux pas non plus donner de détails, mais dans des discussions techniques récentes, dans des dialogues d'experts, il est apparu qu'en fait, les études sur le crash d'avion sur une partie des bâtiments concernant un avion de ligne n'ont à ce jour pas été faites. C'est une information qui nous a été donnée récemment, qui est avec ce qui vient d'être dit, et malheureusement, on n'a pas les moyens de vérifier ça, parce que c'est couvert par le secret.
Alors, je voudrais juste rajouter quand même que techniquement, si on parle le 11 septembre, les tours étaient à une hauteur telle que les avions de ligne pouvaient voler et viser assez facilement. L'armée de l'air nous a bien expliqué que techniquement, arriver dans les mêmes conditions sur une centrale nucléaire n'était pas possible. Donc c'est ni des experts d'un côté, ni des choses, c'est les experts de la défense nationale. Donc je pense que ça vaut tous les crédits.
Laura Hamot.
Attention, le débat sur la sécurité doit pas
cacher en fait tout ce qui relève du danger inhérent à l'existence de l'industrie nucléaire et éclipser tous les débats autour de la sûreté, les problèmes rencontrés par EDF, etc., etc. Et c'est assez facile, je trouve, tout remettre sur le risque externe, alors qu'en fait, le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de risque d'attentat sur les centrales et les installations, eh ben, c'est de ne pas en avoir. Et oui. Si c'est mais c'est pas tout aussi
à fait
dangereux,
le sujet de notre émission ce soir, c'est la sécurité des centrales
et la sûreté. Je veux bien sur la sécurité,
si on n'en a plus, je ne vois pas comment on va faire cette émission aujourd'hui.
On ne doit pas éjecter le débat sur la sûreté.
Mais c'est bien que vous soyez là.
Chiche qu'on arrête toutes les centrales aujourd'hui, on verra comment le monde tourne sans électricité en France.
C'est un autre débat, une autre émission.
Le monde ira bien, la France.
Voilà.
Oui, mais on va.
Et nous allons. On va aller au standard avec Roger qui est à Avallon. Bonsoir Roger, merci de nous écouter et on attend votre question.
Bonsoir et je vous remercie beaucoup d'avoir pris ma question. Très très rapidement, je ne vais pas prendre l'antenne longtemps. Vous parlez de la sécurité. Il y a un documentaire très riche qui est passé à l'antenne et même en replay pendant 2 mois qui montrait tout le problème nucléaire en France. Et on a vu des piscines avec des déchets, etc., qui avaient des murs et des toits de protection comparables à des hangars agricoles. Ma question est... Il y a 58 tranches nucléaires qui un jour vont être démontées. Chaque tranche nucléaire va avoir des déchets extrêmement radioactifs, ceux qui auront la durée de vie la plus longue. La première question, c'est quelle durée de vie la plus longue, entre parenthèses, l'homme moderne a 300 000 ans, et quelle quantité de déchets, quel poids, quelle quantité de déchets le plus radioactif et de vie le plus longue ?
Dominique Minière.
Sur ce sujet-là, la plupart des déchets, d'ailleurs, qui seront issus de la déconstruction, sont des déchets classiques. Quand vous déconstruisez votre salle des machines, par exemple, où il y a la turbine, c'est des déchets tout à fait classiques qui sont gérés normalement. Après, quand vous avez dans la partie nucléaire des installations, il y a toute une partie de déchets qui ont déjà des filières de traitement, qui ont déjà des filières de stockage, qui existent en France. Le seul sujet qui reste, c'est quelle filière de traitement et de stockage pour les déchets à vie longue qui sont issus des assemblages combustibles. Et ceux-là sont traités. Et ceux-là sont traités à la Hague, ils sont mis sous matrice de verre, ils sont stabilisés et ils ont vocation à être stockés dans Cigéo. Au deuxième semestre de cette année, il va y avoir un grand débat sur
Cigéo, je rappelle, c'est à Bure, c'est l'enterrement, si je puis dire, des déchets
l'enfouissement. L'enfouissement. Je suis désolé, c'est pas l'enterrement. Et il va y avoir un grand débat au deuxième semestre de cette année, sur justement la gestion des déchets et des matières radioactives. Ça sera l'occasion pour chacun d'exprimer effectivement son point de vue en la matière et à la fin des conclusions en seront tirées.
On parle quand même là de déchets extrêmement dangereux, toxiques. Oui. Et la question des déchets, notamment celle des combustibles usés, en fait, ça pose des questions sur 10 000 générations. Ça dépasse les échelles de temps auxquelles l'humain est habitué. Et on parle vraiment des déchets les plus toxiques, les plus dangereux.
Le nucléaire est la seule industrie qui aujourd'hui gère ses déchets. Globalement, vous prenez une centrale, par exemple, à gaz, elle émet du gaz à effet de serre, du CO2, il n'y a rien fait pour les traiter. Et le gaz à effet de serre au CO2, c'est l'effet des pas dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans, il est immédiat.
Sur ce problème des déchets, des questions courriels, le transport des matières radioactives, donc des déchets, les convois à travers la France, sont-ils bien protégés ? Apparemment, la Commission n'est pas convaincue, c'est ce que nous écrit Jean. Qui veut répondre ?
Alors, oui, les
Yves Marignac pour l'organisation Wise Paris.
Globalement, effectivement, la question, c'est pas les déchets ultimes dont vient de parler Dominique Minière qui sont issus du retraitement d'une partie du combustible à la Hague, c'est les transports de matières et de déchets qui
sillonnent la France, qui circulent
dans des conditions effectivement relativement vulnérables à la malveillance, même si ces transports sont évidemment conçus pour résister à un certain nombre d'accidents. Mais c'est aussi l'accumulation de ces matières. Alors les durées de vie dont on parle pour les déchets à plus longue durée de vie, pour répondre à Roger, c'est en centaines de milliers, voire en millions d'années. Mais l'enjeu, c'est aussi ce qui se passe dans les dizaines ou la centaine d'années qui vient. EDF a par exemple aujourd'hui un projet parce que le combustible non retraité s'entasse et les capacités d'entreposage de ce combustible se réduisent. Un projet de piscine centralisée d'entreposage du combustible qui pose énormément de questions sur sa sûreté et sécurité à long terme. C'est un projet pour au moins un siècle. Et le rapport de la commission d'enquête insiste justement sur ces questions. Il insiste d'une part sur la nécessité d'envisager des entreposages plus robustes, notamment un entreposage à sec plutôt qu'en piscine du combustible usé, et même sur la possibilité d'envisager une remise à plat de la stratégie de retraitement qui aujourd'hui n'apporte plus réellement de bénéfices.
Bernard à Lille. Bonsoir Bernard. Bienvenue sur l'antenne.
Bonsoir. Bonsoir vos invités. Voilà, j'avais une question qui comporte deux volets finalement. Le premier, c'est de savoir si pour une intervention de maintenance ou d'entretien, 5 ou 6, voire 7 niveaux de sous-traitance, c'était compatible avec la sécurité des centrales nucléaires. Le second volet, c'était, on a vu le renflouement d'Areva par EDF et la construction de l'EPR. Je voulais savoir si la privatisation rampante et qui va se finaliser plus ou moins dans les années qui vont arriver d'EDF est compatible également avec la sécurité des centrales nucléaires.
Alors, sur tous ces points, réponse de Dominique Minière, la sous-traitance, les dangers de la sous-traitance, Laura Hameau, pour sortir du nucléaire, en parlait.
La question est assez précise de votre auditeur, c'est les niveaux de sous-traitance. Sur ce point-là, la réponse est simple, parce que c'est nous-mêmes qui l'avions proposé, et c'était repris par la loi derrière, il n'y a pas plus de 3 niveaux de sous-traitance. Pas plus de 3. Il n'y a pas de nouveaux sous-traitants jusqu'à 5, 6, 7, comme l'évoque.
Ça dilue les responsabilités quand il y a trop de sous-traitants.
Non, ça ne dilue pas la responsabilité. Quand vous faites un certain nombre d'activités très spécialisées, vous avez besoin, par exemple, de Framatome pour faire une activité très spécialisée. Elle a besoin des meilleurs soudeurs. Et les meilleurs soudeurs ont besoin des meilleurs techniciens en matière de contrôle des soudures. Donc vous utilisez les meilleures entreprises qui sont capables de faire ça. Donc bien évidemment, si vous, effectivement, sous-traiter de cette façon-là, vous avez la meilleure opération et c'est un gage de qualité. Alors, et bien évidemment, si vous sous-traitez à 6-7 niveaux, vous perdez le contrôle. Et bien ça n'existe pas.
Laura Hameau.
L'industrie nucléaire a pu se développer et se pérenniser uniquement parce qu'elle a mis en place ce système de sous-traitance qui permet d'externaliser complètement les risques, le danger. Les sous-traitants n'ont pas de statut, ils ont un suivi sanitaire moins important, etc. Et c'est vraiment par ce système que l'industrie nucléaire a pu faire en sorte que tous les travaux les plus dangereux, à haut risque, etc., ne soient pas réalisés par des salariés en interne.
Je m'inscris en faux. Quand on parle de sous-traitants, on parle d'Areva, de Framatome, de General Electric.
Et enfin, on parle des grandes entreprises. Non, on parle de tout un tas de petites entreprises, de personnes qui sont des viands d'AREM.
Pas tous ensemble, l'un après l'autre, sinon on ne comprend rien.
Qui sont exposés sciemment et qui sont envoyés comme ça dans les zones les plus dangereuses, évidemment. Et en plus, c'est l'attitude d'EDF face à ces sous-traitants qui est scandaleuse.
C'est absolument faux.
Monsieur, parce qu'en plus, à chaque fois qu'il y en a qui veulent s'exprimer et révéler des choses en interne, ils connaissent et ils subissent des pressions énormes. Nous, on est de plus en plus contactés par des travailleurs qui témoignent de ça et qui aujourd'hui veulent parler, veulent briser cette omerta, en fait, et cette culture du secret.
Sur ce que vient de dire Laura Hameau, Perrine Goulet, députée La République En Marche de la Nièvre.
Sur la sous-traitance, pour l'avoir vécu de l'intérieur, parce que vous avez peut-être oublié de préciser tout à l'heure qu'avant, j'ai travaillé dans une centrale nucléaire. Pour l'avoir vécu de l'extérieur, demain, vous emmenez votre voiture à un garagiste qui fait ça tous les jours ou à un copain qui fait de temps en temps de la maintenance. Bon. Ce qu'on fait là, ce qui est fait dans les centrales de sous-traitance, c'est ça. Il faut savoir que les réacteurs sont arrêtés périodiquement. On a donc des missions qui sont spécialisées tous les 12, 18, 24 mois. Il est quand même plus intéressant de faire venir des personnes sous-traitantes qui, tous les jours, passent sur tous les réacteurs de France pour faire le même travail et qui sont donc habitués, plutôt que de confier ça à des personnels, par exemple, d'EDF, qui ne le feraient pas pendant 18 mois et qui le feraient après. Donc, je pense que c'est un gage de qualité, la sous-traitance, quand elle est mise sur ces pièces-là. Et donc, on a entendu dans cette commission des représentants des sous-traitants. Ils ont effectivement indiqué un problème de convention collective, mais à aucun moment, ils n'ont tenu les propos que vient de tenir madame en disant qu'ils n'étaient pas écoutés écoutés, etc. Puisque de toute façon, ils peuvent être écoutés par les CHSCT des sites. Donc, ils ont toutes les libertés les CH, de pouvoir intervenir.
Traduisez, parce que c'est...
Les comités d'hygiène et de sécurité...
Les commissions d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui sont ouvertes. Donc, c'est des entités EDF, mais qui sont ouvertes, bien entendu, à écouter les sous-traitants.
Laura, un mot, vous vouliez dire un mot, vous n'êtes pas d'accord?
Oui, en fait, cette personne, notamment, qui a été auditionnée de ma zone contrôlée, aujourd'hui, connaît de grosses difficultés et est mise à pied parce qu'elle est en train de révéler des informations en interne. C'est pas des on-dit, on est en contact avec
pas tous ensemble, c'est incompréhensible. S'il vous plaît, s'il vous plaît, non, parce que ça va être très mauvais, je donne la parole là à Dominique Minière pour EDF.
Je ne connais pas cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait des sondages réguliers auprès des salariés prestataires en passant par un institut de sondage qui s'appelle Médiamétrie. 9 salariés prestataires sur 10 sont heureux de travailler dans nos centrales nucléaires. C'est vérifiable. Qu'il y ait un salarié ou peut-être moins qui ne soit pas content, ça peut arriver.
Yves Marignac,
il faut regarder son sujet.
Pour Wise Paris, deux points. D'abord,
pas trop long.
Oui, je trouve ça étonnant que Dominique Minière fasse précisément référence aux soudures pour parler de la maîtrise de la sous-traitance, parce que justement, EDF,
je suis désolé.
EDF, vous avez parlé des soudeurs et des meilleurs soudeurs. EDF aujourd'hui est confronté sur le chantier de l'EPR à Flamanville 3 à des problèmes de qualité de soudure qui sont en train d'entraîner des retards sur le chantier, notamment parce que les référentiels n'ont pas été transmis. Et puis, sur la privatisation, peut-être on ne va pas le traiter tout de suite, mais c'était la deuxième partie de la question. Et il y a un vrai sujet, globalement, d'évolution de l'entreprise EDF et une forme de fuite en avant dans sa stratégie.
Mais c'est lié au problème...
Il n'y a pas de privatisation d'annoncer. Hein. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut aussi le dire, il n'y a pas de privatisation d'annoncer.
C'est lié à la sécurité.
C'est lié
en partie
à la
sécurité. Soir, hein.
Oui, non, mais il y a, il y a une situation financière d'EDF difficile parce qu'il y a EDF un mur d'investissement dans la prolongation ou le renouvellement de son parc. Et dans le cadre de la commission d'enquête, Jean-Bernard Lévy, le président d'EDF, a une phrase que je trouve extrêmement révélatrice de ce point de vue-là. Il a dit « EDF a besoin de construire de nouveaux réacteurs comme le cycliste a besoin de pédaler pour tenir debout ». Voilà. Donc, s'il n'y a pas de nouveau projet, aujourd'hui, EDF est en train de nous dire que sa capacité à maîtriser les risques en est altérée.
C'est le téléphone zone sur France Inter et les appels sont nombreux. Laurent à Lannion. Bonsoir, Laurent.
Bonsoir. Eh bien, je reviens sur l'EPR de Flamanville en rappelant simplement que la cuve de l'EPR de Flamanville est ratée, car elle ne devait présenter aucun risque de rupture. Et ce n'est pas du tout le cas. L'autorité de sûreté nucléaire a été incapable de s'opposer à sa fabrication dans l'usine défectueuse du Creusot et a subi la politique du fait accompli de EDF et Areva qui ont attendu que la cuve soit installée dans l'EPR pour reconnaître ses risques de rupture. Or, dans ce type d'installation, le zéro défaut est impératif. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution française doit donc être appliqué. Comment donc peut-on imaginer aujourd'hui que cette cuve puisse être autorisée à fonctionner ? Et comment se fait-il qu'elle n'ait pas été recalée d'emblée, puisque son cahier des charges disait clairement « le risque de rupture est exclu ». Or, il y a risque de rupture.
Dominique Minière, pour EDF.
Il n'y a aucun risque de rupture sur la cuve de Flamanville 3. Aucun. Simplement, ce qui a été mis en évidence, c'est un sujet technique qui a fait l'objet, ce qu'on appelle de la ségrégation carbone, mais je ne vais pas rentrer dans le détail technique, qui a été analysé, qui a fait l'objet de plus de 1000 échantillons, de 3000 essais, et à la fin, un dossier complet a été présenté à l'autorité de sûreté, qui l'a effectivement convaincu qu'il n'y avait pas de risque de rupture sur cette cuve.
On ne peut pas quand même être inquiet quand on voit les retards sur ce chantier, la facture qui a explosé, on peut se dire, mais le jour où Flamanville sera en route, ça va être...
Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur Flamanville, c'est que le chantier, tel qu'il a été repris par la nouvelle équipe depuis 2015, quand on regarde où on en est aujourd'hui en 2018, tout un tas d'essais ont déjà été franchis, tout un tas de tests ont déjà été franchis. Il reste effectivement un sujet à régler, c'est celui des soudures d'une petite partie du secondaire des installations, sujet qui est en débat aujourd'hui avec l'autorité de sûreté, effectivement. Mais globalement, l'ensemble des tests qui étaient prévus pour être faits à la date d'aujourd'hui ont été faits sur le PR de Flamanville 3. Il y a eu un net redressement depuis 3 ans aujourd'hui, bon. Depuis notamment l'arrivée de Jean-Bernard Lévy et la mise en place d'une vraie direction de projet, il y a eu effectivement une nette amélioration de la manière dont Flamanville 3 est piloté. Le petit arbre des soudures, qui est effectivement sur la table, ne doit pas cocher la forêt de tous les progrès faits sur Flamanville 3.
Sur les tests sur le chantier de l'EPR, non, il y a des retards sur les calendriers et tout notre travail de recherche, d'enquête et surveillance citoyenne des installations montre bien que sur l'EPR, il n'y a rien qui est prêt en fait. Le personnel n'est même pas prêt à accueillir le combustible. Mais c'est en fait révélateur de ce fiasco de l'EPR. Un chantier qui connaît 10 ans de retard, les coûts qui ont triplé, des malfaçons en tout genre, mais en fait, il peut, si vous voulez, le problème, c'est qu'il pourrait y avoir n'importe quel problème, parce qu'avec les problèmes qu'il y a sur la cuve, qui peut rompre, excusez-moi monsieur, en fait, le chantier, effectivement, aurait dû être arrêté. Mais c'est politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met fin au chantier de l'EPR, c'est toute une industrie qui s'effondre, une industrie qui est déjà au bord du gouffre, endettée, au bord de la faillite. C'est leur seul projet auquel se raccrocher. Et en fait, l'autorité de sûreté nucléaire n'a pas pu prendre de décisions au regard de la sûreté. Il y avait vraiment des pressions économiques.
Je voulais revenir par rapport à ce que l'auditeur indiquait sur l'autorité de sûreté nucléaire. Oui. Le rapport de la commission d'enquête exprime bien que l'autorité de sûreté nucléaire est indépendante, qu'elle a ce qu'il faut pour faire son travail de sûreté. Elle mentionne juste le fait qu'il manque effectivement du personnel pour aller sur tout ce qui est tricherie volontaire, mais ce qui n'est pas le cas à ce niveau-là. Mais je pense qu'il faut arrêter de dire que l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas indépendante, qu'elle ne fait pas son travail. Je me porte en faux là-dessus et dire
je
que
n'ai
c'est
pas
un,
dit qu'elle ne
c'est
faisait
un petit
pas
peu ce que c'est ce que vous
ce que je n'ai pas
c'est un
dit.
Petit peu comme ce que vous avez laissé sous-entendre qu'elle était pieds et poings liés par EDF, qu'elle n'avait pas pu faire.
J'ai une question précise.
Je suis un peu embêté.
J'ai une question précise pour vous à partir de courriels reçus par les auditeurs là. Nous avons Jean-Pierre. Pourquoi cette commission pilotée par Madame Pompili anti-nucléaire? Est-ce pour faire peur? Ou encore Amélie, votre commission, en fait, c'est le résultat du travail de gens qui disent les anti-nucléaires ont raison. C'est donc un travail partisan qui menace le travail de la troisième filière industrielle française avec 220 000 salariés. Perrine Goulet, vous avez émis des réserves sur les résultats de cette commission d'enquête parlementaire. Pourquoi?
Parce qu'elle
est anti-nucléaire ?
Non. Alors, je pense qu'il faut sortir de ce paradoxe de pro ou anti-nucléaire. Aujourd'hui, on est devant une situation qui fait qu'on a 80% de notre énergie nucléaire et de notre énergie qui est produite à l'aide du nucléaire. La volonté, c'est bien entendu de baisser cette portion à 50% pour développer les énergies renouvelables.
Vous et répondez donc, pas à ma question.
Pourquoi avez-vous mis
des réserves ?
Mais je vais répondre justement. Parce que la question qui a été posée pour cette commission d'enquête, c'était d'étudier la sécurité et la sûreté. Or, si vous regardez ce qu'il y a dans ce rapport, on se rend compte qu'il manque des choses. On n'a pas été assez loin sur ces deux problématiques qui sont la sûreté et la sécurité. Par exemple, j'aurais aimé qu'on aille assister, par exemple, à un exercice des gendarmes d'élite pour vérifier s'ils étaient capables de gérer la sécurité. J'aurais aimé qu'on aille, par exemple, regarder les procédures en cas d'incident, voir comment les équipes des exploitants intervenaient quand il y avait un déclenchement d'un incident sur un exercice ou ce genre de choses. Et ce que je trouve très préjudiciable, c'est que dans ce rapport, il manque quelqu'un. Il manque les salariés des exploitants qu'on n'a pas entendus. Je trouve ça très dommage parce que je pense qu'ils auraient pu amener un autre éclairage. Et donc, je ne suis pas en contre tout ce qu'il y a dans ce rapport. Bien entendu, il y a des choses très intéressantes. Oui. Maintenant, je pense qu'il a été sorti trop tôt, ce qui est différent.
François Chambéry, bonsoir François.
Oui, bonsoir.
C'est à vous maintenant, vous êtes sur l'antenne.
Alors déjà, je voudrais rappeler que depuis qu'elle existe, l'industrie nucléaire a provoqué plus de 60 millions de morts prématurées, plus de 100 millions de cancers supplémentaires et une perte de qualité de vie évidente, et notamment pour les gens qui sont à proximité des centrales dont le risque de cancer est multiplié par deux. Ensuite, concernant la sûreté nucléaire que EDF est censée garantir. Une commission du Sénat, commission des finances du Sénat, a noté sur plusieurs années que le flux de trésorerie disponible net d'EDF était négatif, alors que d'autres compagnies d'électricité comme Enel, par exemple en Italie, qui n'a pas à gérer de centrale nucléaire, a un flux de trésorerie net complètement positif sur les mêmes années. Donc dans ces conditions, comment peut-on faire confiance à EDF pour assurer la sûreté nucléaire, sachant qu'en plus, les travaux qui auraient dû être faits suite à Fukushima ne sont pas réalisés ou très partiellement. En
bien,
plus,
François,
il va y avoir des démantèlements à réaliser et qu'il y a toute la gestion des déchets sur des centaines d'années à assurer.
Voilà, alors,
j'aimerais que ce monsieur cite ses sources, hein, parce que moi, les chiffres qu'il indique, j'aimerais bien savoir sur quelle base factuelle on se pose, parce qu'à l'heure actuelle... Moi, ces chiffres-là, je ne les connais pas. Donc,
vous parlez des chiffres,
de mortalité, de cancer, etc. Enfin, je pense je les conteste. Je veux dire que si jamais tous les salariés qui travaillent à proximité avaient des cancers, ça se saurait. Je pense qu'on l'aurait su depuis longtemps. Arrêtons de faire peur pour rien, je pense, à ce niveau-là. Et restons sur du factuel, si c'est possible.
Dominique Minière,
sur le sujet de la santé, par exemple, clairement, nos médecins du travail constatent aujourd'hui plutôt une meilleure santé des gens qui travaillent dans les centrales plutôt que des gens comparé à des échantillons à l'extérieur. Donc, ne faisons pas peur pour rien.
François Chambéry évoquait votre trésorerie négative. Écoutez, vous n'avez pas l'argent pour faire les investissements nécessaires à la sécurité.
Monsieur parlait d'une société étrangère de production d'électricité. Sur les 10 dernières années, c'est simple. Il y a une seule entreprise de production d'électricité en Europe qui n'a jamais fait de perte, c'est EDF. Toutes les autres ont à un moment ou à un autre fait des pertes. Donc arrêtons aussi de fantasmer sur ce genre de choses. La situation financière d'EDF est saine.
Donc vous contestez complètement ce que dit François Chambéry.
Après, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Hein. Par exemple, sur comment c'est construit. Par exemple, chez nous, le tarif d'électricité payé par le client couvre également des frais pour aider le renouvelable à se développer, sont impactés sur EDF. Donc, regardons avant de faire des comparaisons pays par pays ce que réellement chacun paye et ce qu'il y a vraiment derrière pour avoir des vraies comparaisons.
Yves Marignac.
Oui, alors, il y a des questions dans tous les sens. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la situation financière d'EDF est difficile et ça a un poids aujourd'hui de manière évidente sur la manière dont EDF gère la sûreté des installations. Et le rapport de la commission d'enquête, au fond, il dit ça. Il dit pas, il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que la situation est globalement satisfaisante, mais il dit aussi qu'il y a un certain nombre de signaux d'alerte sur des risques de dérive et de perte de maîtrise de ces risques. Un de ces signaux, c'est effectivement ce qui se passe sur l'EPR de Flamanville. On est passé un peu vite sur la cuve de l'EPR tout à l'heure. Je fais partie du groupe permanent d'experts qui a examiné le sujet. Et la conclusion de ce groupe, c'est grosso modo que les marges sur la cuve sont réduites de moitié, mais qu'elles restent suffisantes. C'est pas exactement la même chose que de dire qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Et quand Dominique Minière dit sur le chantier, c'est une petite partie des soudures du circuit secondaire, c'est 35% des soudures du circuit principal secondaire et l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, juste sur ce point, parce que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui conseille l'autorité de sûreté nucléaire, à propos de ces problèmes de soudure à Flamanville, a dit que les causes de ce problème étaient des défaillances dans la culture de qualité et de sûreté qui interrogeaient sur la qualité de l'ensemble du chantier.
C'est un véritable désastre. L'émission est quasiment finie. Il est 19h58 et on a encore un appel de Martial. Je vais le prendre sur l'antenne, mais Martial, soyez pas trop long parce que là, c'est quasiment fini. C'est dommage, hein.
C'est assez difficile parce que je voulais parler du retrait par l'AAGE, simplement en résumant très rapidement. Bon, là, l'AAGE, c'est certainement le site le plus dangereux de France, avec 110 cœurs de réacteurs dans les quatre piscines, 60 tonnes de plutonium. Le rapport envisage la possibilité de stocker à sec les combustibles. Donc ma question, c'est très simple. Est-ce qu'on doit continuer CIGEO dans ces conditions? Est-ce que les piscines centralisées sont encore nécessaires? Je crois que non. Donc c'est là-dessus que je voudrais vous entendre.
Dominique Minière,
juste ce point-là, simplement, c'est un débat, c'est un sujet qui sera versé au débat du deuxième semestre sur le plan national de gestion des déchets radioactifs. Juste pour rebondir par rapport à ce que disait Marignac, Monsieur Marignac, je voulais juste indiquer que sur les 10 dernières années, notre taux de panne a été divisé par deux, notre taux d'accident de sécurité d'accidents du travail a été divisé par deux, le nucléaire n'a jamais été dans une meilleure situation en France qu'aujourd'hui.
C'est complètement faux. EDF endettée. Elle est dans l'incapacité de faire les travaux pour sécuriser le parc. Ce seraient des investissements de dizaines, de centaines de milliards. Même la Cour les comptes le dit.
Mais c'est fini. C'est terminé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter, Dominique Minière, Perrine Goulet, Laura Hameau et Yves Marignac. C'était le téléphone sonne et on se retrouve demain soir à 19h20.